vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Il cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour. Mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir, je pense, pour beaucoup de gens, l'œuvre d'Aragon, une œuvre absolument unique et remarquable, Le Fou d'Elsa. Alors, ce personnage du Fou d'Elsa, disons, dans cette œuvre, on va trouver des chants, des poèmes, des morceaux de théâtre, des dialogues, enfin. Des formes multiples et aussi des personnages multiples. Donc, Elsa, le fou d'Elsa, vous allez voir pourquoi. Donc, avant que l'islam apparaisse, les tribus vivaient avec leurs croyances de l'époque et il y avait un couple de jeunes filles, une jeune fille et un jeune homme, qui s'aimaient. Il s'appelait, lui, Kays, et elle, Layla. Donc, ils doivent s'épouser, bien sûr, et ils s'aimaient, ce qui était un peu particulier, mais enfin, c'était pas un mariage arrangé. Mais Case n'épousera pas Leila, parce que il a eu la malencontreuse idée de chanter ses louanges en public, c'est-à-dire devant tout le monde. Donc c'est une chose qu'il ne fallait pas faire. Et faisant ça, il l'a un peu souillé, on peut dire. Donc il n'épousera pas Leila et elle sera emmenée dans une autre tribu où elle se mariera. Elle y mourra assez vite et Case cherchera sa tombe dans le désert, la trouvera et il mourra à son tour. Mais il est devenu fou dans tout ça, bien sûr. Il était fou déjà avant de mourir, mais cette folie a fait que son personnage s'est transformé de Case en Mejnun. Alors, le Mejnun, c'est un personnage très important dans les pays du Maghreb et aussi de l'Afghanistan, de l'Irak, pays de poètes. Mejnun va obséder littéralement les siècles qui vont venir. Et aujourd'hui, il est toujours là dans ces pays-là. Les gens parlent beaucoup. Moi, quand je parle du Mejnun aux Algériens, tout de suite, ça leur parle aux Tunisiens. Tout le monde le connaît. Alors, il a plusieurs noms, mais c'est toujours Mej, un nom comme ça, quoi, Meknouch, voilà. Donc, c'est un personnage encore vivant. Donc, Aragon le prend et se met dedans, carrément. Il devient aussi le Mejnun. Et il est parti. Le Mejnun arrive en Espagne, en Andalousie, qui est encore arabe et qui va subir. C'est la dernière ville que les catholiques n'ont pas encore prise. Donc il y a une longue négociation pour avoir les clés. Enfin, c'est assez complexe. Et le Mejnun, il apparaît là-dedans et tout le monde le suit, l'écoute, c'est comme un sage. Et il est comme sacré, disons. Voilà, donc lui, il sent tout ce qui va se passer. Alors, il faut dire que Aragon joue sur les noms d'Elsa parce que à l'époque, en arabe, Alza ou Elsa, c'était camouflé, le nom de la déesse était camouflé dans ses noms, la déesse pré-islamique qui s'appelle Al-Oza, qu'on trouve encore, qui est, disons, la Mecque, c'était son temple. Voilà. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est très ancien tout ça, et on est dans un modernisme complet. Voilà. Donc, on vit cette espèce d'histoire de folie amoureuse, parce que Mejnun, il n'est là que pour chanter l'amour pour Leila, Elsa. Voilà, donc c'est pour ça qu'on traverse aussi les périodes, les guerres, notamment les guerres, la guerre de subite en 1400 et quelques en Andalousie entre les catholiques et les arabes. Et puis après, la guerre qu'a connue Aragon, la guerre de 14 et la guerre de 39-40. Voilà, donc on retrouve tout ça et on va entendre justement ces textes-là. Voilà, donc Mejnun, il y a un petit poème écrit, voilà, que je vais vous dire. Mejnun. C'est donc lui, je crois, qui parle, enfin, c'est aussi Aragon. Au nom que je ne nomme point et qui s'arrête dans ma bouche comme un objet de pureté qui briserait son propre son, comme la fleur dans le tilleul avant de la voir, que l'on sent. Au nom de vanille et de braise, oh, comme l'oiseau sur la branche, léger à la lèvre tremblante et doux au toucher de la main, comme le verre que l'on brise et qui ressemble une caresse, comme l'aveu d'une présence au bord de l'ombre tentatrice. Nom de cristal, loin dans la ville et où tout près murmure d'amant, oh non, qui rougit sur ma langue si peu que je le prononce, je n'ai désir qu'à demeurer comme sa traîne ou son parfum, à n'être plus que sa poussière, un souvenir de ses pas fins, qu'à son sujet l'on ait de moi comme une vague souvenance, ou moins que ça comme d'un tri, un tremblement ou d'un soupir, dont ne sait quoi ce qu'on oublie, un geste d'aile ou d'un accent, d'une ombre au mieux dans la voix même ou dans l'orchestre, le buccin, moins qu'un écho dans l'escalier, qu'un bruit de porte qui se perd. Et si pourtant l'on a mémoire un jour ou l'autre que je fus, disant ce nom qui n'est que d'elle et qui me trouble dans mon âme, qu'on daigne alors, selon mon cœur, me laisser être un anonyme à son parage, à son passage, et qu'il soit dit c'était son fou. Donc Majnoun est insaisissable, mais on le décrit quand même comme un homme très très âgé, une très grande sagesse de plusieurs mille années d'années. C'est, voilà. Donc il avait un enfant, il y avait un enfant orphelin qui était enseigné par les voisins juifs de la maison, la petite masure où habitait Majnoun. Donc ce Zaïd devient son ombre, un gamin, voilà, dont les parents n'étaient pas connus, il était orphelin, on ne sait pas d'où il vient. Et il se met à prendre soin du vieux Majnoun, le diseur de Zadjal. Zadjal, c'est-à-dire le poème. Et il s'appelait donc Zaïd. Il était comme une ombre, serviteur, silencieux et rapide. Il a pris d'une famille de lettrés juifs, toutes sortes de langues. Il était très intelligent et très cultivé, comme ça. Un talent précoce et singulier. Quand Zaïd, plus tard, tombe dans les mains de l'Inquisition catholique, il fut torturé afin de lui arracher explication de cette singularité du Majnoun. Tout ce qu'on obtint de lui, qui n'avait semblance d'aveu, fut que l'écriture n'est point faite pour ce qui se passe, mais pour ce qui demeure. Il cria de douleur, suivant l'enseignement de son maître. Il cria ces paroles. L'avenir de l'homme est la femme et non pas les rois. Voilà, donc l'avenir de l'homme, c'est la femme. On en parle beaucoup de cette phrase, mais il y a plusieurs interprétations. L'avenir de la femme, l'avenir de l'homme, c'est pourquoi c'est la femme. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mariage pour tous. Et ça peut être intéressant comme thème par rapport à ce qu'on entend. Et il dit que la femme, c'est quelque chose qui vous instruit, c'est quelqu'un qui vous amène à la vie, qui vous amène, et là, des poèmes extraordinaires là-dessus. C'est ça qui fait que la femme est l'avenir de l'homme. Et moi, je pourrais dire que la femme sera l'avenir de l'homme quand elle changera un petit peu aussi. Il faut qu'elle évolue, je crois, pour faire naître un autre homme, d'autres hommes. Voilà, donc il y a encore beaucoup à faire. Voilà. Donc nous allons nous trouver à Grenade, dans le palais de Boabdil, le dernier petit roi, qui s'appelait El Chico. On l'appelait El Chico, les gitans, parce qu'il y a beaucoup de gitans à l'époque. Et c'est très grave parce qu'il hésite encore, il faut remettre les clés de la ville à Isabelle la catholique, etc., à Ferdinand. Et le dernier petit roi parle avec sa mère Aïcha, sa jeune mère. Voilà, donc il essaye de comprendre comment on va faire. Voilà. Dialogue avec Aïcha. Mère, dites-moi d'où vient la destinée ? Et si tout est écrit, qu'importe ma conduite ? M'avez-vous, et la vie et le malheur, donné ? Si le mal est de Dieu, dois-je en payer les suites ? Aïcha, mon fils, Dieu n'est plus Dieu si le mal et le bien ne sont également de lui les créatures. Et tu n'es plus le roi si de lui tu ne tiens ton injuste pouvoir ambigu par nature. Boabdil. Du pouvoir et de Dieu, ma mère, j'ai douté. Pour prouver Dieu, faut-il que le mal s'accomplisse ? Faut-il, comme Dieu, fait punir qui n'a fauté ? Pour prouver Dieu, faut-il exercer l'injustice ? Aïcha, regarde en Mohamed cet enfant de lune qui fut si beau d'ignorer toutes choses et voit l'homme rongé d'être roi, de savoir le destin qui l'attend, l'homme de chair et de pensée au piège du monde, pris, qui déjà ne peut plus rattraper les délancés, n'a choix de recommencer la partie. Ah, que ne peut-elle lui mentir, ainsi qu'on ment au tout petit et le bercer dans ses bras déshabitués de la tendresse, elle, dont la vie est déjà si longue et déchirée, ayant donné toute sa passion, le feu de ses jours, et sa ruse à garder pour ce fils un pouvoir qui lui est maintenant d'amertume. Elle brode des fleurs et se tait, écoutant les jets d'eau. Boed Bil. Mère! Quel âge avait, dites-moi, le prophète, quand Kadjidja, la tête rouge de Héné, le prit entre ses bras comme moi, vous ne faites, qui meurt de revenir où de vous je suis née. Aïcha, oh mon enfant, cesse un jeu sacrilège où tu triches, je comprends le pari par quoi ton cœur ne me ment. Mais va-t'en retrouver la jeunesse des biches, je suis vieille et le sais irréparablement. Boed Bil. Mère, quand Mahomet et Khadija, sa femme, fit deux fils et quatre filles, dont Fatima, 20 ans les séparaient comme l'eau d'une rame, ose dire qu'il n'était pas vrai qu'il aima. Aïcha. Va, va, je te connais, va, va, je te devine, jeune fruit de ma chair, ô monstre de pitié, tu ne peux me tromper, toi, qui dans ma poitrine remuais comme un diable, me frappais du pied. Boed Bil. L'amour que je vous porte, ô mère, à nul autre n'est comparable. Les femmes m'ont donné le plaisir ainsi qu'une terre arable. Mais je tiens de vous le pouvoir, une seconde fois, la vie. Mon corps est fait de votre argile en refus de qui fut mon père. Et par blasphème du Coran, mon âme et la vôtre sont pères. Mon âme qui tourne vers vous sa longue envie inassouvie. Les yeux de mon âme et mon corps n'ont pas un différent langage. C'est de toujours qu'avec vos yeux le dialogue qui s'engage. De l'homme comme de l'enfant et de ce feu que Dieu défend. Quel narcisse auprès de vous qui régnait entre les jacinthes, assise au-dessus des jets d'eau dont la prière a les mains jointes, et marchait à pas de jasmin parmi mes désirs étouffants. Je tremble rien que de vous voir, qui ne puis le faire sans crime, et vous retrouve en mon miroir comme l'inceste d'un rime. Je crains le jour, je crains la nuit, je crains mon silence et mon bruit. Je ne sais plus où je me perds dans mes regards ou dans mes songes. Si votre présence m'épire ou quand votre absence me ronge, et c'est de vous par qui je suis qui me vient ce qui me détruit. Aïcha. Émir, abandonnez ces feintes et ces plaintes, l'âge n'a point en vous la démence calmée. Regardez-moi, mon fils, comme le temps m'est peinte, comme le temps m'a peinte, regarde, et si même de toi je me puis croire aimé. Boed Bil. Me faut-il donc devant vous dire avec le langage de l'homme ces choses de la violence en moi du sang, les mots qui nomment ce qu'à soi-même tait la bouche et dont j'ai le ventre habité? N'avez-vous pas le souvenir de ce qu'est? C'est que la tempête inexorable de l'époux qui fait en vous gémir la bête, me faut-il être devant vous la mémoire d'obscénité? Reconnaissez l'incendie et le meurtre au fond de ma prunelle. Ni vous ni moi ne pouvons rien contre le printemps éternel qui n'a d'autre loi que sa loi, qui n'a d'autre maître que lui. Pas plus que l'éclair, je n'ai choix de vous épargner cet outrage. Je suis la lance et l'épée, et je suis la grêle et l'orage. Ah, consentez du moins que je vous prenne entre mes bras de pluie. Puisque je suis le dernier roi, que je sois le dernier cyclone, il faut qu'un péché sans mesure explique la chute d'un trône, et pour l'enfer de moi, grenade dédaignée. Aïcha. Grenade vous attend, mon fils. Allez régner. Merci. C'est un poème extraordinaire, ce dialogue, c'est un dialogue digne des grands tragiques grecs. Hein, oui, donc c'est une chose assez bouleversante ce que veut Boabdil, qui était le petit roi, un petit, il était faible parce qu'il était trop tendre. Voilà, donc on va passer, bien sûr que ça va continuer. Cette ville est dans l'attente de la remise des clés au vainqueur, dont le délai était fixé. Les catholiques réduisent ce délai. La défaite, lue dans toutes les mosquées, annoncée, Grenade tout entière se trouve face à face avec son destin. Alors le peuple s'inquiète et va trouver Majnoun, parce que apparemment tout a été épuisé, toutes les possibilités, et ils viennent vers lui et lui disent « Et nous étions venus, dire-t-il, pour voir l'avenir dans ta bouche. Nous étions venus pour le feu de la parole et pour le feu même de mourir. Un mot de toi nous eût grandement suffi pour mourir. Nous étions venus rien que pour ce mot de ta bouche. Et de quoi parles-tu ? Qu'est-ce que c'est que cet égarement ? Il s'agit de l'émir avec l'ennemi qui de nous décide, et voilà qu'ils ont fait ensemble à présent cette chose impie. Faut-il laisser livrer Grenade et tout le pays musulman ? Il n'est pas d'autre question. Mais toi, comme une coquille vide, tu n'écoutes pas d'autre bruit qu'une mer au loin, ton écho. Nous étions venus pour savoir s'il fallait courir dans la plaine ou d'abord porter la fureur au palais de la trahison. Et tu pouvais, oh chanteur, fou, nous mener au bout de nous-mêmes. Nous allions mettre dans tes pas le destin de nos pas derniers. Et voilà que tes lèvres ne font qu'un noir murmure de poèmes. À l'heure où le peuple se lève, il veut des mots prêts à saigner. Des mots pour bondir et tomber, des mots dans la poitrine éclatent. Des mots plus forts que n'est le bras, plus pénétrant que n'est le couteau. Des mots qui nous font oublier que nous n'avons que cette vie. Des mots qui soient comme le jour et brûlent les yeux, qu'ils éclairent. Il veut des mots qui font courir à ne sentir ni pied ni sol. N'as-tu pas pour lui dans ta gorge un chant qui soit à sa mesure ? Et faut-il que Grenade meure si tu lui refuses ton cri ? Alors il évoque Keïs et le roi envoie sa garde pour recueillir Majnoun. Mais il y a une confusion. C'est alors que ce piquet de la garde Zénette, au nom du roi, s'en vient saisir le fou, sans que la foule fît un geste pour le défendre. Et lorsqu'il tenta de s'enfuir, devant lui s'est fermé le mur étranger des hommes par lesquels il n'avait ni chanté ni menti. Les mercenaires l'ont jeté dans l'Alhambra comme un paquet d'orties. Alors, il arrive dans le palais près au pied du roi. Il est jeté au pied du roi, Boabdil. Et Boabdil, très malheureux, « Pourquoi ?» dit Boabdil. Quand il eut lavé de ses royales mains le vieillard saignant, comme s'il eût été son père et non point ce père qu'il eut. « Pourquoi t'es-tu sauvé de ceux qui venaient te chercher en mon nom ?»« Bah, à car plus que la plaie au visage, où ses entailles des bras sabrés par ses berbères lui étaient insupportables, que le seul énoncé de son nom fit s'enfuir n'importe lequel de ses sujets. Frappé de crainte, il s'était souvenu du chanteur à cette heure où brûlait la tente d'Isabelle. Au cœur des disputes philosophales qui s'étaient dans la cour d'un fermier du marge, levé pour accorder son luth et les gens au soleil de l'avenir, et comprenant soudain que c'était de ce même homme que lui avait parlé Moussa, le Motassib, l'ayant entendu dans les bains dire paroles si belles qu'on n'en pouvait rien retenir, le roi, dont le cœur était amer de Moussa disparu, qui fut le seul à défendre la ville et le royaume, une nuit qui ne dormait point, avait imaginé d'envoyer quérir le fou pour lui parler maintenant, à ce seuil du destin, encore une fois de l'avenir, de ce champ dans l'ombre, d'été n'ayant souvenir que pour ce vers étrange, aujourd'hui plus encore qu'à l'heure, où il était dit que l'avenir de l'homme et la femme. Plus étrange. Aujourd'hui, que Grenade, sur son lit d'angoisse ainsi qu'un agonisant, se retourne et nul n'a sentiment de la bizarrerie de ce que même mouvement, même la minute, même ait poussé le peuple et son souverain à chercher auprès de ce possédé réponse aux questions qui les assiègent. « Pourquoi, dit Boabdil, ne voulais-tu pas venir me voir à ma demande ?» Mejnoun lui répond « Ô roi, qu'Allah ait en sa garde et soit sa volonté faite en toutes choses. Ne sais-tu point qu'il a été écrit que devoir était aux musulmans de s'abstenir de fréquenter les princes et sultans et même de les rencontrer ? À qui les rencontre, il est malaisé d'éviter envers eux cette forme de l'hypocrisie appelée usuellement politesse. Et n'a-t-il pas été prescrit à qui, par force, y est contraint d'éviter de les complimenter ? Car Dieu est en colère quand on loue les oppresseurs et les scélérats. Ne fronce point, ô roi, ton sourcil redoutable, il ne se peut que tu ne saches que ces mots ne sont miens, mais appartiennent à Al-Ghazali, l'imam de Bagdad. Disant encore que demander au ciel longue vie à un roi n'est que souhaiter voir Dieu désobéi sur la terre. Boabdil, ô vieillard, le temps n'est plus de ma colère et sans doute l'excès de ta langue ne tient-il que d'avoir été battu par les gardes, desquels je te promets qu'ils vont souffrir 1000 morts pour chaque meurtrissure de ta chair. Vous qui de loin voyez l'émir sans comprendre quelle est la part au juste de ce que l'on commet en son nom, vous n'avez que représentation vague du pouvoir, ignorant qu'il s'exerce d'abord à l'insu de son possesseur, contre ce possesseur même. Le pouvoir n'est pas du prince, oh Mejnoun, mais de Dieu. Du moins c'est là ce qu'on nous enseigne à nous, qui nous en trouvons les tremblants dépositaires. Tu crois que j'ai voulu que l'on te frappe ? Alors que j'avais demandé seulement qu'on te trouve et te dise, ainsi qu'on s'adresse à un saint homme en te saluant très bas, que le roi de cette ville expirante, à l'heure de son supplice, avait désir de te parler et de parler à toi seul. Mais ainsi sont forgés les instruments du pouvoir qui ne peuvent rien imaginer que la violence et le commandement, toute forme donnée à l'ordre dont ils avaient exécution ne pouvait à leurs oreilles d'âne signifier que détour par raffinement royal à la mission confiée. Ils n'avaient retenu que le désir du roi, l'implacabilité de l'assouvir. Mejnoun, tu sais mieux que moi sans doute, émir, par qui seul est au peuple expliquer le sens des paroles divines, l'exacte force de ton bras, mais d'où vient que tu n'en sais mesurer les faits ? Tu rejettes sur tes serviteurs la responsabilité du sabre et du sang, mais d'où leur vient droit et capacité de frapper, sinon de toi, c'est-à-dire de Dieu, par le chemin de ta volonté ? Comment peux-tu me demander de distinguer entre le pouvoir et toi ? Commande ! S'il en est encore temps, que ces malheureux soient épargnés et ne me frappèrent que parce qu'ils avaient pour eux naturel, c'était naturel que tu leur donnes. Non, ne te cache point derrière eux, ne trouve pas dans leur brutale obscurité l'explication des choses. Tu portes responsabilité de ce qu'ils sont. Boah. Et Boabdil ordonna qu'il en fût fait ainsi sur le champ, si bien que vinrent devant le chanteur des rues s'incliner les gardes zénètes à qui l'on avait encore eu le temps à peine que de casser à l'un l'épaule, à l'autre la mâchoire. Boabdil qui s'est tourné de cet écœurant spectacle. Ne m'as-tu point reconnu, non pour le maître de Grenade en sa splendeur, mais plutôt ce calendar comme les autres sous les étoiles qu'on disait cette nuit-là comme au secours de leur âme, humilié d'être tous fils de roi. Te souviens-tu de celui qui avait le secret des arbres, de celui dans ses mains qui avait connaissance de la terre et des germinations ? Te souviens-tu de celui qui niait Dieu pour en mourir et le grammairien parlait du futur ? Mais toi, tu chantais l'avenir. Ô fou qui mérite son nom, Mejnine. Mejnoun dit, je chantais l'avenir. Mais n'était-ce point toi qui m'y avais provoqué ? Qu'étais-tu donc venu chercher sous un déguisement parmi ces hommes, et croyais-tu pouvoir, par un mensonge, en eux trouver la vérité ? Je me souviens de toi maintenant, portefeuille. Après le travail, semblait-il, venu t'instruire d'une science en secret transmise. Un homme de toile grossière et en qui ne se résumait qu'une seule interrogation. Boabdil, oui, oui, j'étais uniquement une question posée, et vous ne l'entendiez point, déchiré de querelles où je n'avais entré. Une question, rien d'autre, et c'était pour elle que j'avais dépouillé la splendeur que je m'étais fait le plus humble d'entre vous, pour elle uniquement. Ainsi, tu venais demander, dit Mejnoun, tu venais demander à ceux-là dont tu fis par la suite trancher la tête, ou que tes juges ont jeté vivant à la moisissure, et tu venais demander prétexte à continuer ton jeu sacrilège, excuse à ton pouvoir, justification à tes crimes, comme tout à l'heure à mes yeux tu prétendais te sauver en accusant tes gardes. Et voilà. Mais quand il s'agit du pouvoir, alors il t'est besoin d'un bouclier plus large, une ombre plus épaisse. Tu te caches derrière Dieu. Boabdil, pourquoi m'accables-tu, vieillard ? Oh, si tu t'es donné cette longue incertitude, dit Mejnoun, que te cachais-tu donc par là ? Ne le vois-tu point ? Hein ? Si le mal et le bien pour toi demeuraient inconciliables en Dieu, pourquoi tu voyais le bien ? Tu voyais le mal, ils existaient. Mais avais-tu jamais pu voir le terrain de leur lutte ? As-tu jamais vu ce Dieu qui se devait d'être d'en être la source jumelée ? Décidément, les rois n'ont guère d'intelligence. L'idée en toi n'a donc jamais surgi que cette difficulté se pouvait aisément résoudre à la seule condition d'abandonner le prédicat de Dieu. Il se fit un grand silence des oiseaux et des fontaines. Voilà le dialogue. Un dialogue tout à fait fort. Enfin, il se poursuit, n'est-ce pas ? Je ne peux pas le lire tout. Mais je vous conseille de lire le livre qui est très important. Alors, on passe toujours dans cette guerre. C'est la terreur dans la ville, bien sûr. Et jamais, peut-être, dans l'histoire des hommes, il n'y eut pareil désarroi. Quand donc une nation fut-elle ainsi sur le point de perdre sa terre et sa gloire et sa religion ? Tout ce qui demeurait ici de foi profonde s'était réfugié chez les humbles, ceux qui ne possédaient qu'elle et pour qui mourir était peu de chose au prix de cette totale dépossession du corps et de l'esprit. Comment se mirent-ils à croire à cette fable dans la ville où la peste frappait aux portes ? Ils se disaient que c'était là l'œuvre des Juifs. Et cela n'avait aucun sens d'abord, nulle créance auprès de la douleur populaire, qui pouvait bien répandre ces bruits. Mais un peuple est moins frappé par les idées générales que par les faits particuliers qui les illustrent. Il se trouva quelqu'un de qui volèrent les paroles, ayant vu trace sur les murs d'une ordure pestiférée afin qu'on s'y frotte en passant. Cela n'était d'abord ni cher, ni clair. Mais bientôt s'enlevèrent des témoins de plus en plus nombreux qui savaient déjà que cette substance, cet enduit mis aux maisons des étroites venelles, était de la bave. Disaient les uns des excréments, les autres par quoi les fils d'Israël répandaient le mal afin d'affaiblir Grenade, au point que si les Berbères à nouveau traversaient la mer dans le délai fixé par les capitulations, il n'y ait plus personne à délivrer dans la cité morte. Déjà se trouvèrent des gens qui frappaient de leurs poings leurs yeux, en témoignage que ces yeux-là avaient reconnu les barbouilleurs des murs. Des noms étaient jetés de rabbins et de tailleurs, mais le plus grand succès fut aux dénonciations de médecins juifs. Si bien que le hadjab s'en émut et fit arrêter une bonne demi-douzaine qui, sous l'effet de la torture, avouèrent tout ce qu'on voulut. Oui, c'est au soir du 25 de Safar, par un vent d'hiver et la nuit prématurée d'un ciel sombre comme le rame. Et l'Ouadi Adaraout s'était enflé dans l'ornière entre l'Ambra et Al-Baïjazine, La Daroute, c'est une rivière. Que les Grenadins atteignirent le comble de la douleur et de la honte et leurs groupes s'unirent dans les sentiments divers dont ils étaient déchirés. Le patriotisme et la foi des uns, la peur insupportable des autres, leur commune haine des riches qui porta les premiers coups sur des maisons de dignitaires. Et voilà l'incarnation de tout cela dans les Juifs vers qui des agitateurs véhéments les tournaient au point de les jeter sur des maisons misérables, des familles de besogneux, parce que tout le peuple des Écritures à cette heure de la colère et de l'aveuglement leur paraissait les banquiers de la couronne, que la pauvreté même il apprenait pour une infâme comédie, et pénétrant où la faim régnait, il cherchait l'or caché qui est la marque d'Israël. Voilà, c'est cette guerre qu'on reconnaît bien ce qui a été vécu dans la guerre de 39-40. La nuit de cristal, tout ça. Et c'est parce que, et c'est drôle parce que historiquement, c'est pas faux. Dans l'histoire de Grenade, il y avait la peste noire. Alors, la contagion, ça pouvait résoudre des problèmes. Voilà, donc la pauvre ville de... Bon, je ne vous parle pas des adieux de Boabdil à la ville. Qu'est-ce...
Tu veux pas de musique ?
Si, si.
Donc que tu paraisses de l'air, que te fera attachant tes cheveux, ce geste touchant, que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, Elsa mon amour, ma jeunesse. Eau forte et douce comme un vin, pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse d'être, tu me rends la soif et la faim. De connaître notre histoire jusqu'à la fin. Ces miracles que d'être ensemble, que la lumière sur ta joue, qu'autour de toi le vent se joue, toujours si je te vois, je tremble. Comme à son premier rendez-vous, un jeune homme qui me ressemble. Pour la première fois ta bouche, pour la première fois ta voix, d'une aile à la cime des bois, l'arbre frémit jusqu'à la souche. C'est toujours la première fois quand ta robe en passant me touche. Ma vie en vérité commence le jour où je t'ai rencontré, toi dans les bras on su barrer sa route atroce à ma démence. Et qui m'a montré la contrée que la bonté seule ensemence. Tu vins au cœur du désarroi pour chasser les mauvaises fièvres, et j'ai flambé comme un genièvre à la Noël entre tes doigts. Je suis né vraiment de ta lèvre, ma vie est à partir de toi. Suffit-il donc que tu paraisses de l'air, que te fait rattachant tes cheveux, ce geste touchant que je renaisse et reconnaisse. Un monde habité par le chant, Elsa mon amour, ma jeunesse.
À vous. Alors bien sûr que la vie est prise et... L'endroit où se trouve Mejnoun, caché, il est recueilli et soigné par les gitans dans le quartier des pauvres, le quartier des, comme aujourd'hui d'ailleurs, l'espèce de lieu où les gitans étaient cachés. Et c'est eux qui sortent Mejnoun, qui le soignent, mais ils n'arrivent pas à le guérir. Donc, parce que c'était vraiment une épidémie très grave. Donc, alors, ainsi, l'enfant, Zaïd, homme devenu, s'en est retourné chez les gitans parce qu'il y a eu une séparation à un moment donné. D'où jadis il vint par quelque hasard nomade, et nul ne saura jamais s'il fut de leur race ou s'il n'a pas été dans ce jeune âge enlevé par eux. La pâleur de ses traits même n'explique rien. Dans les grottes du Cholaïr, les calesses lui font place où dormir. Eux savent se cacher, s'il le faut, des nouveaux vainqueurs de Grenade. Et sur les chevaux volés en sont venus deux avec Zaïd, Alal Baïzaïn, c'est le quartier gitan pauvre. Et sur les chevaux, ils sont venus chercher ce chanteur dont ils parlaient, se reprochant de l'abandonner à la soldatesque des chrétiens et qu'ils ont parfois entendu dans les faubourgs, disant d'Elsa, dont parmi eux fut toujours curiosité grande, car on ne sait si cette femme est d'Égypte ou bien de Tulé. Sur des chevaux volés, Zaïd et les gitans emportent ce qui demeure du fou dans sa folie, tandis que l'air de Grenade sonne et résonne des clameurs de l'orgueil castillan. Santiago, Santiago, et chante Te Deum, piétons et cavaliers en plein vent de la victoire. Ainsi, dans les étoffes de son lit roulé, comme dans ses douleurs et sa fièvre, Adnadji, c'est-à-dire Medjnoun, sur les bras du plus fort de ces jeunes gens qui ne tient que des cuisses, une monture hennissante et souple, on dirait conscient de tout ce que cela signifie à la façon dont elle évite les cailloux et bondit les obstacles. Al-Nadji rêve que ce sont les anges à cheval, comme dans le ciel des batailles, qui l'arrachent à la vie, et s'étonne à travers la nuée en lui d'entendre les mots qu'il se crie, car il n'avait jamais imaginé qu'autre langue puisse parler que l'arabe, ces créatures célestes, et ne reconnaît pas sur leurs lèvres Grenade, par eux Maligrana nommé. Voilà, donc c'est Maligrana, c'est le langage des gitans. Voilà. Et il ne reste plus que Zaïd. Zaïd sera l'héritier de Mejnoun et il va, il a tout recueilli, toutes ses paroles, tout. Donc il va être le Mejnoun, c'est le suite. Et ce personnage qui continue. Moi, j'en ai vu un de Mejnoun en Tunisie. Tout le monde le nourrissait. C'était un homme qui parlait comme ça, qu'on disait fou. Et il parlait vers la mer, il parlait à la mer, il me parlait aussi quand il marchait derrière moi. Il disait des choses extraordinaires, en mélange français. Et donc, ce Mejnoun, il existe encore. Voilà, donc... Il y a une chose que Aragon, enfin le Mejnoun, il pense que le Mejnoun, s'il était encore vivant, il verrait quand même que à l'époque des grandes guerres anciennes, c'était plus terrible, les gens ne vivaient pas comme dans le confort d'aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'il dit là, c'est ce que dit le poète. Quand les rois catholiques viennent devant Grenade et l'enserrent, quelles que soient les horreurs du siège, l'abomination de Médine est une chose lointaine, à quoi nul ne pense bien que ne soit encore inventé le principe des forces, des fausses sceptiques. Si les Grenadins étaient justes, ne devraient-ils pas alors, c'est-à-dire dans la famine et la peste et la mort sur eux, reconnaître qu'il y a eu progrès depuis les temps du prophète? Si je regarde en arrière, le détail de la vie ancienne me rend sensibles les grands changements qui se sont faits. On n'a plus nécessairement froid l'hiver. Et si un tiers de l'humanité n'a pas encore à manger, cela représente une amélioration fantastique de la condition humaine. Tourner mes yeux sur le passé, c'est du coup croire au mieux. Mais si, non plus imaginant l'avenir, mais le voyant, je jugeais en avant et non point en arrière, que penserait-on de moi, le Mejnoun? Mon pauvre double aurait-il ivresse vraiment des avions et de l'électricité? Lâchez-le dans Paris en ce siècle d'Elsa, il va se croire en enfer. Ce qui est le progrès pour moi, pour lui relève du martyre. L'homme de jadis fut-il alors à l'avant-garde, comme nous disons avec notre parler militaire, a été façonné pour le monde, à quoi se sont faits aussi bien sa chair que ses songes. Notre progrès est son épouvante. Je ne sais pas ce que Mahomet aurait pensé de tout à l'égout. Et pourtant là, le progrès, c'est là. Aussi bien, qui me reproche de tourner mes regards vers le passé, ne sait-il pas ce qu'il dit et fait? Si vous voulez que je comprenne ce qui vient, et non pas seulement l'horreur de ce qui vient, laissez-moi jeter un œil sur ce qui fut. C'est la condition première d'un certain optimisme. Et cela vaut peut-être mieux que l'utopie, source de la désillusion des hommes, cette sorte de science-fiction qu'on préférera sans doute au roman historique, pour peu qu'on soit homme d'action. Voilà, donc c'est le poète Aragon qui pense que Mejnoun, il pense comment Mejnoun réagirait au progrès d'aujourd'hui, et il exprime des choses très importantes, c'est-à-dire la connaissance de l'histoire pour éviter l'horreur, n'est-ce pas ? Donc, il y a un journal qui apparaît, qu'on ne sait pas d'où il vient, ça s'appelle Journal d'on ne sait qui, car qui fut témoin des derniers jours ou pure invention morisque, on ne peut le savoir, sinon qu'imaginer ces pages comme paroles révélées ou peut-être des veilleurs de l'un d'eux à sa façon qui témoignent. Al-Nadji, cet été de 1495, est entré dans ses jours d'agonie, ce qui suit et tout ce qui est resté de sa mort. Et nous n'en connaissons ni la main qu'il écrivit, ni ses raisons de l'avoir fait. Alors, le dernier poème, c'est le vrai Zadjal, d'en mourir. Ô mon jardin d'eau fraîche et d'ombre, ma danse d'être mon cœur sombre, mon ciel des étoiles sans nombre, ma barque au loin douce à ramer. Heureux celui qui meurt d'aimer. Qu'à d'autres soit fini, amer, comme l'oiseau se fait chimère et s'en va le fleuve à la mer où le temps se part en fumée. Heureux celui qui meurt d'aimer. Heureux celui qui devient sourd au chant, s'il naît de son amour, aveugle au jour d'après son jour, ses yeux sur toi seul fermés. Heureux celui qui meurt d'aimer. D'aimer si fort ses lèvres closes, qu'il n'ait besoin de nulle chose, hormis le souvenir des roses, à jamais de toi parfumées. Heureux celui qui meurt d'aimer. Celui qui meurt même à douleur, à qui sans toi le monde est leur, et s'en retient que tes couleurs, il lui suffit qu'il t'ait nommé. Heureux celui qui meurt d'aimer. Mon enfant, dit-il, ma chère âme, le temps de te connaître, ô femme. L'éternité n'est qu'une pâme au feu dont je suis consumée. Heureux celui qui meurt d'aimer. Il a dit, ô femme, et qu'il taise le nom qui ressemble à la braise, à la bouche rouge, à la fraise, à jamais dans ses dents formées. Heureux celui qui meurt d'aimer. Il a dit, ô femme, et s'achève ainsi la vie, ainsi le rêve, et soit sur la place de grève ou dans le lit accoutumé. Heureux celui qui meurt d'aimer. Jeunes amants, vous dont c'est l'âge, entrez la ronde et le voyage, foi s'épargnant qui se croit sage, criez à qui vous veut blâmer. Heureux celui qui meurt d'aimer.
Eh bien, on va se quitter donc avec cette chanson « Je t'aime tant » qui est chantée par Léo Ferré.
Mon sombre amour d'orange amer, ma chanson d'écluse et devant mon quartier d'ombre où vient rêvant mourir la mer. Mon beau mois doux dont le ciel des étoiles sur les monts calmes, ma songerie au mur de pain. tes bras d'or, mes faibles merveilles, renaisse ma soif et ma faim, collier, collier. Est-ce qu'on sait ce qui se passe? C'est peut-être bien ce tantôt que l'on jettera. Couper ma gorge et l'épivoine, vite apporter mon vin, mon sang pour lui plaire, comme en passant. Avoine. Il me reste si peu de temps pour aller au bout de moi-même et pour crier Dieu. Je t'aime tant.
J'espère que vous avez apprécié ces paroles d'Aragon qui sont pour moi exemplaires, extraordinaires à entendre aujourd'hui. Donc, c'est un gros livre, Le Fou d'Elsa. Et il faut vraiment, ça vaut la peine de s'y plonger, parce que je n'ai pu donner que des petits extraits. Voilà, et je viens donc le 4 février avec un autre poète que je n'ai pas encore choisi.
Le 4 février, comme tous les premiers lundis du mois, à 17h jusqu'à 18h. Oui. Merci Sophie Laurence pour ses poèmes du lundi. Et puis ben, merci à Jean-Marc, notre régisseur aujourd'hui. C'est bien agréable d'avoir quelqu'un à la régie.
Ah oui, hein, oui.
Merci Jean-Marc et c'est bonne soirée bien à tous. On se retrouve quant à moi demain après-midi à partir de 16h30. Vous retrouverez Michel pour les matinales de 8h30 à 10h. Bonne soirée à tous.
Tu n'en reviendras pas, toi, qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu, quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Que nos buts a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. On part, Dieu sait pour où, ça tient du mauvais rêve, on glissera le long de la ligne de feu, quelque part ça commence à n'être plus du jeu, les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs, les soldats assoupis que ta danse secoue, laissent pencher leur front et fléchissent le cou, cela sent le tabac, la laine et la sueur.
Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancée de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri. C'est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était-elle ou non drôle, moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent?
Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Il est d'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur, un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent? Comme des soleils